Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Alors oui, bien sûr, comme il le confiait à François Mitterrand avec une autodérision de seigneur, il est celui qui chante des causes perdues sur des musiques tropicales. Mais en fait, il est beaucoup plus que ça, Bernard Lavilliers. Il est celui qui, depuis 50 ans, ouvre nos horizons en arpentant pour nous la planète et réchauffe nos mélancolies et les siennes au rythme de la salsa ou du reggae. Le nouvel album, subtilement ciselé, porte ce titre intrigant sous un soleil énorme. Et déjà, des dates supplémentaires sont annoncées pour son Olympia du 27 au 30 octobre 2022, bien sûr. Bienvenue, cher pirate.
Bonjour, Isabelle.
Bon alors, Bernard Lavilliers, dans cette époque de l'empêchement, de l'interdit sous couvert de protection, cette époque d'autocensure au nom, par exemple, de la cancel culture, vous qu'on a toujours présenté comme le corsaire de la chanson française. Moi, je préfère pirate parce que, en fait, le corsaire, il était aux ordres du roi et vous, vous n'avez ni dieu ni maître. Donc, j'ose le mot, vous devez vous emmerder dans cette époque.
Parfois, oui. Mais c'est pour ça que je file, je prends la tangente. La tangente, j'adore l'idée de prendre la tangente. D'ailleurs, c'est une très belle expression, je trouve.
Ouais.
C'est peut-être un peu ancien, d'ailleurs, comme expression. Mais prendre la tangente, on ne fuit pas, on prend juste la tangente. Bon, voilà. Donc, je me suis retrouvé à Buenos Aires avant le fameux Covid-19.
Ouais. Hein,
début de l'année 2019, justement. Je trouvais tout un peu lancinant. Quelque chose d'un peu ordinaire, dans des bagarres qui n'ont plus vraiment d'intérêt, sauf sans doute les scientifiques ou certains artistes. Il faut avoir une sorte de moelle en dehors de l'inspiration.
Oui.
C'est-à-dire que si l'inspiration ne vient pas, il faut la provoquer.
Moi, ça, vous savez faire.
Hein. Pas 36 façons de provoquer l'inspiration. C'est d'aller seul, où je ne connais personne et où personne ne me connaît.
Mais vraiment seul.
Ah oui.
Vous arpentez la planète seul.
Pas toujours. Parfois, ma femme me rejoint. Là, au bout de 3 semaines, elle est venue. Parce qu'en plus, on avait des projets en commun sur place. Mais au départ, j'ai commencé à écrire seul dans une ville inconnue.
Ouais.
C'est mon truc.
C'est votre truc.
Ouais.
Alors, je démarre cette conversation en vous demandant donc si, parfois, cette époque ne vous emmerde pas un peu. Mais ça me vient parce que Renaud n'écrit plus, ne chante plus. Goldman n'écrit plus, ne chante plus. Vous êtes le dernier qui s'insurge.
Croyez que je suis le dernier des Mohicans, moi ?
Peut-être bien.
Alors, oui, mais c'est pas sûr qu'ils écrivent plus, d'ailleurs. Je ne sais pas. Parce que j'ai pas vu Renaud depuis un moment, donc il est bien possible qu'il écrive. En plus, cette époque était quand même un peu binaire, hein ? Noir ou blanc, ouais. Avec beaucoup de morale,
ouais.
Une époque globalisée, un monde est sous surveillance. C'est vrai que ça peut-être castrer l'inspiration de certains. En tout cas, moi, au contraire, j'ai le tigre qui sort et je me dis, tiens, on va s'en occuper parce qu'au fond, est-ce que attirer l'attention sur des nouvelles musiques, sur des nouveaux poètes, par exemple, ou sur une nouvelle forme d'existence, c'est interdit, pas encore, pas pour l'instant. Il y a des pays sous dictature où il est même interdit de chanter une chanson. Hein.
Ouais.
Il faut quand même se rendre compte de ça.
Comme par exemple en Afghanistan, sous le régime des talibans, pour les femmes. Allez, parlons du nouvel album. Il est faussement festif, le titre de votre nouvel album, Bernard Lavilliers, sous un soleil énorme. Parce que le soleil, c'est la vie, mais quand il deviendra énorme, ce soleil, il incendiera la Terre. Donc il y a comme un présage de fin du monde dans ce titre.
Il y a un peu ça, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pays que j'ai visités qui sont dans une sécheresse absolue, et d'autres. C'est-à-dire, regardez bien, les États-Unis, à l'Est, ils sont inondés, et à l'Ouest, ça brûle. Donc, ne simplement que les pays d'Amérique, du Nord. Alors, j'ai écrit ça en pensant à la COP26. Hein, il y a, je ne vais pas vous cacher, hein, Isabelle, quand j'ai écrit Le cœur du monde, je me disais, c'est bien gentil, les politiques vont encore se réunir, et alors ? Et alors ?
Comme disait Ferré, hein. Bon, on vote, et alors ?
Ouais,
et après ?
Et puis après. Ils ont voté, et puis après, c'est ça.
Donc... Oui, parce qu'il a quand même une sacrée grille de lecture, cet album. Par exemple, la chanson qui l'ouvre, dans cette chanson, vous dites « C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux, on attend la prochaine, la dernière, la certaine. » C'est vraiment ainsi que vous le sentez, Bernard Lavilliers ?
Mais je vois bien que tout le monde se fourbit en armes. Si c'est pour pas s'en servir, je me demande pourquoi. Simplement, toutes les guerres mondiales, au départ, étaient économiques. Après, on a rajouté une couche d'idéologie, etc. Mais en réalité, ça a toujours été comme ça. Alors moi, attention, quand je dis ça, c'est le poète qui parle. C'est pas l'homme, hein. J'ai pas du tout envie qu'il y ait une troisième guerre mondiale, franchement, entre nous. Mais si on peut prévenir, c'est mieux quand même. Parce que il va y avoir des moments où il n'y aura plus assez d'eau pour tout le monde. Enfin, vous le savez aussi bien que moi. Et d'autre part, il y a des idéologies qui s'arment pour se contredire violemment. Alors, qui va être le patron? Ça ne sera plus les États-Unis, il y a des chances. Alors, ça va être qui? C'est une question. Enfin, on peut répondre, hein. Il y a certainement les Chinois. Mais on n'en est pas encore là. Simplement, il y a quand même du soleil, même s'il est énorme. Alors, plus ténu au fond du tunnel, je ne suis pas complètement désespéré.
Et puis, il y a la musique. Mais il y a 30 ans déjà, Roda Gil, poète catalan, anard de son état, faisait chanter à Julien Clerc « À quoi sert une chanson si elle est désarmée ?» Vous croyez réellement, Bernard Lavilliers, que les chansons bousculent les idées? Parce que les chansons, elles célèbrent l'amour, mais elles n'ont jamais changé le monde, fût-elle écrite par Jean Ferrat?
Non, c'est vrai. Mais quand même, il y a certaines chansons de Bob Dylan, par exemple, qui n'ont pas changé le monde. Mais ça, il y a une grille de lecture. C'est vrai que les chansons peuvent s'adresser à l'adolescence, plus, on va dire ça. Il y a quand même des chansons, je pense qu'il y a des chansons d'une époque. Hein. Celle que j'ai repris, qui a tué David Moore, par exemple, c'est des années 60, c'était folk. Moi, j'ai écouté ça en boucle, pas tout le monde. Mais à mon avis, c'est quand même intéressant, ça. Et alors, il y a quand même des événements qui ont marqué des chansons comme la chanson des Partisans, qui est quand même une chanson incroyable, à une époque terrible. Ça a fédéré des gens, ça. Ça leur a peut-être donné du courage ou de l'espoir. Il y avait quelque chose d'extrêmement rude hein, dans le texte. Et je pense à ça. Alors, je ne suis pas désespéré non plus. Je ne dis pas qu'une chanson va nous changer la donne.
Alors justement, je reviens à l'album. Au début de l'aventure de ce 23e album, qui a donc pour titre « Sous un soleil énorme », et ben vous avez choisi de poser vos valises en Argentine. Bon, le Brésil n'a plus de secret pour vous, mais l'Argentine vous intriguait. Alors vous y êtes installé pendant 3 mois, vous êtes parti à l'aventure, à la rencontre surtout d'artistes, de musiciens. Vous avez commencé à enregistrer les premières maquettes de vos chansons à Buenos Aires, mais effectivement le Covid est arrivé, la planète a été mise sous cloche, et vous êtes retrouvé confiné dans votre maison de campagne française. Ça signifie que ce nouvel album, Bernard Lavilliers, il a été enregistré sans que les musiciens soient réunis autour de vous. Chacun a joué dans son coin.
Oui, exactement.
Mais comment vous l'avez dirigé à distance? Parce que c'est charnel, la musique, c'est un partage. Alors?
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, avec difficulté. De temps en temps, on a pu se réunir quand même. Mais je veux dire, la plupart du temps, diriger de loin, complicité de lointaine, pas proche, c'est vrai, mais ça prend plus de temps. Bizarrement, on croit que ça va beaucoup plus vite, hein, le numérique. Eh bien non, dans ce genre de cas de création, c'est beaucoup plus lent parce que, après je téléphone en réalité, comme n'étant pas la reine des dactylos, je vais au téléphone et je mets un micro, je dis voilà ce que je voudrais au niveau accord, tu comprends? Et le mec ou le fait tout de suite ou il me dit ah ben attention j'ai autre chose à faire, donc on attend 2-3 jours que ça revienne et alors à ce moment-là on recritique, donc il faut avoir vraiment envie de faire un album hein, et des chansons, parce que ça peut démobiliser franchement.
Au bout d'un moment, mais pas vous.
Non. C'est pas le genre qui démobilise aussi facilement. C'est vrai.
Cet après-midi, on se balade en compagnie de Bernard Lavilliers. À tout de suite. On s'interrompt vraiment un très très court instant.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Un seigneur, un bandit, un poète, une voix d'or. Il est bien le pirate magnifique de la chanson française. Je reçois Lavilliers, dont le nouvel album porte ce titre inquiétant, sous un soleil énorme. Bernard Lavilliers, dans la chanson intitulée « Je tiens d'elle », qui est un hommage à la ville de Saint-Étienne où vous avez grandi, vous chantez « Il faut que je parte pour devenir quelqu'un ». Vous avez su très tôt, peut-être vers l'âge de 12 ou 13 ans, que votre histoire s'écrirait ailleurs?
Oui, certainement, mais je ne partais pas pour écrire des chansons, je partais pour être un aventurier, moi. Donc, quelle que soit l'aventure. Alors, il se trouve que maintenant, mon aventure, c'est d'écrire des chansons et d'être un artiste de scène, quoi, un interprète aussi. Mais au départ, c'est pas la ville qui me pesait, hein. C'est simplement la curiosité qui me taraudait comme ça. curiosité des, à cause des lectures, à cause de la musique, à cause de tout ce qui m'entourait, finalement. Je ne suis pas le roi du quotidien, hein, évidemment, même à l'époque.
Vous n'êtes pas doué pour le quotidien.
Pas vraiment. Non.
Mais même si vous étiez solidaire, je parle donc de l'adolescence à Saint-Étienne, en quoi déjà aviez-vous peut-être le sentiment d'être différent des autres ?
Sans doute parce que quelqu'un qui lit de la poésie et dit ça à ses potes, à l'époque, même aujourd'hui, je suppose que c'est toujours un peu bizarre. La poésie, c'est pas très normal. On imagine tout un tas de choses sur un type qui en écrit. J'écrivais pas encore de la poésie, mais j'aimais la musique brésilienne alors qu'ils aimaient le rock'n'roll.
Bien sûr.
On était différents, voilà. C'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on s'entendait pas, hein, franchement.
Alors, votre père, Bernard Lavilliers, travaillait à la manufacture d'armes de Saint-Étienne et il était un chef syndical important. Votre maman était institutrice. Il y avait beaucoup de livres à la maison et on écoutait de la musique car vos parents étaient abonnés à la guilde du disque. Et alors, j'ai appris cette chose vraiment étonnante, presque incroyable. Il paraît que votre mère n'écoutait pas Édith Piaf, qui était vraiment la star absolue de l'époque, parce que votre mère trouvait vulgaire Piaf.
Oui, tout à fait, elle trouvait vulgaire, à la
Pourquoi
différence de mon père et moi.
Que trouvait-elle de vulgaire chez Piaf, peut-être votre maman
les, peut-être les thèmes, vous voyez, un peu de la rue, un peu voyouse, comme ça, enfin des thèmes abordés, c'est sans doute ça. Et puis l'écriture, peut-être, je ne sais pas.
Impudique, c'est ça?
Peut-être,
trop voyeuse?
Ouais, sans doute. Quoi que ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais posé la question. Mais nous, on l'aimait bien. Nous, on l'aimait bien, c'était une chanteuse de blues. Notre chanteuse de blues à nous.
Eh oui, exactement. Alors, je reste sur votre maman, parce que franchement, elle avait du caractère. Devant votre père communiste, votre mère, institutrice, affirmait « Il y a trois sortes de gens que je ne supporte pas. Les curés, les communistes et les instituteurs.
Oui. »
Elle était la nard de la famille. Avant vous. Non ?
Oui, bien sûr, je tiens de ma mère dans certains domaines. Une rebelle, c'est ça, on peut dire ça. Avec une grande culture, une précision de la langue, comme mon père. Alors, les deux étaient... ils lisaient beaucoup. Alors, mon père, bien sûr, il était plus... Ma mère, elle aimait bien les romans. Elle aimait beaucoup certains poètes que j'ai découverts avec elle. Et puis, mon père était plutôt porté sur l'histoire, bien sûr.
Mais votre père, qui était un chef syndicaliste, ouais, c'était un meneur d'hommes ?
Ah oui, complètement. Ah oui, oui. Mon père avait une présence, un charisme. C'était un beau mec.
Il savait monter sur scène, lui aussi.
Oui, ouais, certainement. Il savait, sans devenir démago, c'est ça, le plus difficile à faire quand on est chef syndicaliste, et pas de promettre le soir du grand soir. Non, non, c'était un type pragmatique, mon père. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je lui obéis quand j'ai arrêté de faire des conneries pour aller apprendre à travailler tourneur-fraiseur
à 16 ans. C'est lui qui vous a montré le chemin de l'usine.
Il m'a dit, écoute, si tu veux voyager, d'accord, mais il faudrait que tu aies un vrai métier. Et un vrai métier qui s'exporte. Et effectivement, à l'époque, c'est comme informaticien aujourd'hui. Et tourneur-fraiseur, ça pouvait se faire partout, dans le monde entier. Donc effectivement, c'était pour mon bien, et puis pour se rassurer sans doute en se disant... Il ne faudrait pas qu'il parte vraiment ouvrir
voilà,
mon fils.
Trop, ouais. Voilà, et trop loin. Mais avant d'évoquer cette vie à l'usine, Bernard Lavilliers, entre le jazz qu'écoutait volontiers votre père et Brahms, qu'adorait paraît-il votre maman,
absolument, ouais.
Vous trouviez où votre compte en musique à 14-15 ans ?
Les deux.
Puisque vous n'aimiez pas le rock'n'roll qu'écoutaient vos copains
non.
de classe. Donc non, non. Vous picoriez à droite, à gauche.
C'est ça. Alors mon père écoutait de la musique brésilienne. Moi j'ai découvert...
C'est lui qui vous a initié en
Carlos
fait au rythme...
Jobim, les Cubains aussi, mon père
Latino.
Adorait ça. Il y avait du latino jazz déjà. Le jazz avait influencé... d'ailleurs la bossa nova qui est quand même de la samba sophistiquée, c'est très influencé par les accords de jazz. Hein. Peut-être naturellement les Brésiliens écrivaient comme ça, mais à mon avis...
Voilà, les rythmes ondulatoires, vous qui n'êtes pas un binaire en fait, qui n'êtes pas un rocker alors que vous avez une prestance de rocker, mais ce que vous aimez, c'est tout sauf le binaire, c'est justement ces espèces de vagues ondulatoires très sensuelles des rythmes latinos.
C'est ça, qu'on s'achaloupe en réalité.
Voilà.
C'est ça, exactement, vous avez raison.
Alors, il paraît que c'est à la sortie d'un séjour en maison de correction que votre père vous a imposé d'aller travailler à l'usine, donc avec cette formation de tourneur-fraiseur, tourneur sur métaux, qui pouvait vraiment vous être utile sous toutes les latitudes. Et alors, dans cette usine gigantesque où travaillait à l'époque 10 000 ouvriers, c'était comme une ville,
hein, ouais, beaucoup.
Vous êtes devenu, paraît-il, un tourneur très qualifié.
C'est-à-dire que le côté, justement, retour sur Terre avec diplôme et tout ça, donc des connaissances assez approfondies, parce que je travaille dans la même usine, l'usine d'armement, hein, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, il y a des gens qui connaissent, ça n'existe plus, mais jusqu'à une certaine époque, c'était vraiment une usine en pointe. Et effectivement, ça m'a plu, moi, de travailler de mes mains et d'être avec un morceau d'acier et d'en faire une pièce utile. Donc, j'étais pas frustré du tout. Hein. Je me disais, de toute façon, quand on est 16 ans, franchement, et je me dis, toute la vie devant moi,
et voilà.
Il a raison, je vais passer le diplôme, je vais être efficace, et après, je verrai bien. Donc,
Mais pendant que vous prépariez le diplôme, Bernard Lavillier, secrètement, j'imagine que vous hésitiez entre, alors, boxeur, gangster ou poète, c'est ça? Ou peut-être les trois?
Ben, on peut être les trois, de toute façon.
Ou deux sur les trois.
Deux sur trois. On peut faire tout en même temps. Moi, je pense que la poésie se niche même dans les endroits les plus incroyables, hein, les plus improbables. Non, effectivement, la boxe, ouais, j'ai appris la boxe. Et puis, après, je fréquentais pas mal des comédiens de théâtre, parce qu'à Saint-Étienne, il y avait la Comédie Saint-Étienne,
oui.
L'associé de Jean Villard,
oui.
Qui a fait le Festival d'Avignon.
Oui.
C'était avec des gens d'Asté qui avaient la Comédie Saint-Étienne, Planchon, des gens qui ont mis le théâtre à la disposition du peuple. En réalité, c'est les Tréteaux de France. Hein ?
Ah, les tournées des Tréteaux de France, c'était absolument extraordinaire, effectivement, j'ai envie de dire les années 60, n'est-ce pas ?
C'est ça.
Il parcourait l'Hexagone. Et donc, vous avez songé à un moment donné à devenir comédien ?
Un peu, ouais. J'ai pris des cours de diction, mais pas beaucoup. Plutôt des cours de mime, ce qui est surprenant, mais ça m'intéressait beaucoup.
Oui.
Pour un chanteur, être mime, c'est curieux. Mais je ne suis pas le seul. Moi, un jour, je rencontre David Bowie quand je vivais à New York, hein, au CBGB, qui est devenu un magasin de fringues. C'était une sorte de club de Los Angeles, enfin un truc. Et on parlait...
Très underground.
Voilà. David Bowie, et ben David, il a fait 3 ans de mime aussi. Et je me disais, tiens, est-ce qu'il a appris à danser sur scène ? Et non, c'était pas de la danse, c'était... Il bougeait très bien, hein, David Bowie. Mais il y avait une précision du geste, et je me suis dit, c'est curieux. Et finalement, on parle, et on parle de mime, je sais pas pourquoi, et il s'y connaissait vraiment beaucoup. C'est très marrant, et c'est très utile, parce qu'il y a beaucoup de mecs, quand ils lâchent leur guitare, ils savent absolument pas quoi faire de leurs mains sur une scène. Et c'est vrai.
Mais bien sûr. Allez, on continue de dérouler le fil, Bernard Lavillier. L'année de vos 19 ans, quitte à partir, autant partir loin, vous avez décidé que ce serait le Brésil que vous découvririez en premier. Alors, j'imagine que vous avez embarqué sur un cargo en proposant d'y travailler, enfin parce qu'il faut de l'argent pour partir comme ça, si loin. Mais après des aventures vraiment dignes du film Le Salaire de la Peur, il nous faudrait une après-midi pour les raconter, eh bien, vous êtes revenu. En Europe, en France, un an plus tard, on vous trouve dans le Paris des cabarets Rive Gauche et vous chantez également dans le Marais, là où vous touchez votre premier cachet d'ailleurs en jouant sur la scène d'un restaurant italien où chantent deux autres inconnus à l'époque, Jacques Higelin et Renaud. Donc vous êtes revenu à Paris et vous êtes concentré complètement sur la musique soudain. Le choix était fait.
C'est-à-dire après avoir... Là, on passe 5 ans vite fait. Hein,
mais
la Pizza du Marais, c'était l'endroit. Une sorte, c'est pas vraiment un cabaret, plutôt un café-théâtre, je dirais. Donc, Higelin, Jacques, il passait après moi, avant, enfin bon. Le premier, on mettait Renaud en premier tout le temps.
Pourquoi ?
C'était le jeune, donc on disait, vas-y.
Chauffe le public.
Non, c'était à chaque fois, on passait à peu près 1 heure à peine. Donc, la salle se remplissait, c'était une grande cave. Elle se vidait, les gens rentraient pour l'autre. Et puis après, la mienne se vidait. Et c'était Jacques qui accueillait son public. On se trouvait évidemment tous à la Pizza du Marais qui servait des pizzas toute la nuit. Donc c'était un endroit de discussion. C'était le premier endroit, parce que mon attaché de presse de l'époque, Béatrice Soleil, me dit « Ah, il faut que tu ailles là parce que au moins la presse pourra te voir ». Il y avait une certaine presse.
Les producteurs passaient là.
Pas les producteurs, les journalistes surtout.
Les journalistes.
Et après les producteurs, d'abord eux. Donc il y avait des découvertes au niveau chansons dans les années 70, comme il y en a aujourd'hui d'ailleurs. Et les journalistes, c'est eux en général qui parlent, qui découvrent les nouveaux talents. Alors après, sa Pizza du Marais, j'ai rencontré, je connaissais déjà le directeur artistique de Léo Ferré, Jacques Brel, d'Aznavour, Richard Marsan. Voilà.
Oui.
Et lui, il travaillait avec Eddie Barclay depuis toujours. Donc j'ai quitté la maison de disques où j'avais fait le Stéphanois parce qu'il ne faisait pas grand-chose d'autre que... payer le studio, bon. J'avais envie de chanter sur scène, moi.
Oui.
Je faisais que ça, d'ailleurs. Et avec Eddie Barclay, ça a pris une toute autre allure.
Bien sûr,
bien
sûr.
Pour lui rendre ce qui lui appartient à Eddie.
Et voilà, le destin s'est mis en place et on n'échappe jamais à son destin. On retrouve tout de suite Bernard Lavillier.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il regarde toujours devant lui, Bernard Lavillier, car une vie ne suffit pas. Son nouvel album a pour titre « Sous un soleil énorme ». Mais cet après-midi, on chemine ensemble. Alors, cher Bernard, est-il vrai qu'un jour, Bruce Springsteen, qu'on appelle le boss aux États-Unis, Bruce Springsteen, en personne, vous a demandé « Mais comment tu fais pour que ton public rock adhère à tous ces genres différents qui vont du reggae à la salsa, en passant par la rumba ou la bossa ?» Il vous a demandé ça, Springsteen.
Évidemment, on est dans le même studio. Enfin, il y avait plusieurs studios au Power Station, ça s'appelait comme ça à New York. Studio de rock et de jazz, d'ailleurs. Il s'appelle Avatar, maintenant. Donc, il y avait une super cabine de batterie. À l'époque, c'est très important. Et donc, il était là à côté. Donc, finalement...
Et il est venu vous écouter, écouter vos musiciens.
On se voyait dans l'espèce de cantine hein, qu'il y a dans les studios. Et d'ailleurs, c'est son saxophoniste qui a joué du sax baryton dans Traffic. Si on écoute bien, il y a un truc qui fait bop bop, comme ça. C'était le saxophoniste de Bruce Springsteen. Et après, donc, moi, dans ce studio, j'avais enregistré un truc très punk, très rapide, qui s'appelait New York Rock City, très très rapide.
Ouais.
Et puis Traffic, qui était plus lent et sans aucune floriture. Hein. Basse, batterie, des guitares et un petit clavier. Ça l'intéressait, ce style, lui. Donc, et après, je lui ai dit, écoute ça, je venais de faire la salsa avec Ray Barreto.
Et en plus, la salsa avec Ray Barreto, donc là, il était tout à fait
intrigué. C'est pas possible sur le même album. Le public latino, il ne va pas acheter ce...
Alors, qu'avez-vous répondu à Springsteen ?
Ben, je lui ai dit, peut-être que mon public est plus large que le public américain. Il m'avait dit, quand j'irai en France, parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, c'était en 79, c'était pas encore le boss.
Oui.
Hein. Il me dit, quand j'irai en Europe, je verrai. Et c'est sûr qu'à New York, si c'est du latino, il va y avoir des latinos. Si c'est du rock, il n'y a que des blancs. Et si c'est de la soul, il n'y a que des blacks.
Ouais.
Donc ça ne se mélange pas vraiment. Il y a d'autres groupes de la même période qui s'appelaient Dire Straits, qui eux ont expérimenté beaucoup plus de choses. Mais Bruce, c'est un style à lui.
Mais parlons de vos musiques à vous, pas vos musiques, Bernard Lavillier. Le reggae, bah vous avez appris à le jouer en Jamaïque, avec des musiciens jamaïcains. La salsa, vous l'avez apprise à Cuba, la bossa au Brésil, et vous êtes allé à Porto Rico pour parfaire tous les types de musique caribéenne. Mais au-delà des musiques, qu'est-ce que vous avez appris à Kingston, à Cuba, à Sao Paulo, à Porto Rico, qui sans doute vous a transformé, parce que vous êtes infusé de tout ça, de toutes ces cultures. Alors,
j'ai appris dans le ghetto, surtout, des punchlines comme ça. Par exemple, j'ai resté un moment avant de pouvoir enregistrer en Jamaïque. Hein. Donc, c'était la guerre civile. Donc, et puis, le mec, il me dit « Kingston, kill someone ». Je sais, hein, je savais, ça flinguait. Et le mec, il me dit ça. Voilà. Alors, c'est pas mal. Parce que c'était tout à fait vrai. Kingston tue quelques-uns.
Il ne faut pas en être.
Eh ben, préférence, c'est pas nécessaire. Et alors, comme à New York, quand j'ai trouvé cette ligne-là, la salsa, c'est une latine de Manhattan. Et j'ai demandé à un portoricain, mais c'est ça, c'est une latine de Manhattan. C'est-à-dire que finalement, ils avaient leur radio, les portoricains, qui faisaient de la musique latine des îles Caraïbes, proche de Cuba. Hein, c'est très proche ce qu'ils font. Plus urbain, c'est-à-dire que c'est un peu plus funky. Et la latine de Manhattan, c'est ça. C'est-à-dire une musique chaloupée qui se mélange avec la musique funk qui est, elle, dérivée
de
la
fusion.
Soul. Ouais, c'est vraiment... C'est pour ça qu'ils appelaient ça la sauce.
Il paraît qu'en Jamaïque, c'est Bob Marley lui-même qui vous avait conseillé donc, le studio. Vous avez enregistré Stand the Ghetto.
Bob Marley et puis son avocate Diana Ellis, ouais. Il m'avait dit, ne va pas au Dynamic, c'est trop cher. C'est marrant. Hein. Il m'avait dit, il y a un autre studio. Non, mais apparemment, j'avais pas l'air. Effectivement, j'étais pas riche du tout, d'ailleurs. Ça tombait bien. Je suis parti, j'avais plus rien.
Bernard Lavillier, en fait, Gainsbourg et vous avez enregistré la même année, en 79, à Kingston, en Jamaïque. Lui, sa version reggae de la Marseillaise, aux armes, etc. Et vous, Stand the Ghetto. Est-ce que vous êtes croisé avec Gainsbourg cette année-là ?
On n'était pas au même temps, je crois pas. Puis Gainsbourg, il avait déjà écrit avant, il écrit sur place, mais il n'écrivait pas sur la Jamaïque. Moi, j'ai écrit sur les Jamaïcains, sur ce qui se passait en Jamaïque. Donc c'est différent. C'est pour ça d'ailleurs, je suppose, quand j'y retourne, quand je veux faire du vrai reggae, je retourne. Et ils me connaissent très bien là-bas, dans ce coin-là. Ouais, parce qu'ils se disent, c'est le blanc qui a une voix grave et qui écrit sur notre vie. Basse-batterie, quand je chante grave, si tu danses reggae, le bassiste, il me bouffe complètement dans les fréquences, hein.
Qu'est-ce que c'est beau de l'entendre comme ça, chanter a cappella. Bon, sur des rythmes reggae, Bernard Lavillier, ni Gainsbourg, ni vous ne chantez reggae. En fait, c'est ça le secret du chant. C'est-à-dire que, par exemple, sur de la salsa, votre voix, elle se pose comme on interprète de la chanson française. C'est la rythmique de la salsa qui doit créer les effets ondulatoires.
Absolument.
Mais la voix, elle, c'est comme si vous chantiez une mélodie de Ferré.
Oui, on n'écrit pas de la même manière, hein, quand même. Hein. Il y a des pratiques imposées, comme tout est en l'air. C'est-à-dire que tout le gang était là, paf, comme un film. Hein.
Ouais.
Donc ça se découpe, c'est la découpe. En réalité, effectivement, je ne chante pas comme les Portoricains, parce qu'ils traînent, c'est des grands ténors. Hein. Ils traînent sur les sons et tout ça, et puis ils improvisent. Moi, j'avais écrit vraiment comme un scénar. Tout le gang était là, ceux de Puerto Rico, ceux de Cuba. Donc, c'est par rapport à la rythmique qu'on découpe le texte pour qu'il soit efficace. Après, ça roule avec la rythmique, justement. Et on peut interpréter comme une chanson française, vous avez entièrement raison.
Alors, Bernard Lavillier, en fait, quand on a, comme vous, depuis 50 ans, voyagé autant de par le monde, on réalise qu'elle n'est pas si grande que ça, la planète.
Non. Et puis souvent, on rencontre des gens qu'on avait vus à 20 000 kilomètres. C'est bizarre. Et pourtant...
Les voyageurs sont toujours les mêmes, en fait.
Oui, il y a plein de gens que je retrouve en Afrique, par moment. C'est incroyable ce qui peut m'arriver. Je ne peux pas raconter, mais parce que c'est trop long. Mais une autre fois, je reviendrai. Je vous expliquerai un truc qui m'est arrivé avec une équipe de foot que j'avais sponsorisé à la Goutte d'Or et dont deux ou trois mecs sont devenus des footballeurs internationaux.
Ouais.
Au départ de la Goutte d'Or, je leur ai acheté tout l'équipement. Ils n'avaient rien.
Et vous les avez retrouvés méga stars de foot en Afrique.
À Dakar. Et le mec me dit, merci monsieur Lavillier, regardez la photo. Effectivement, c'était ma tronche qui avait surtout leur maillot à l'époque de voleur de
feu.
Et j'ai devenu une star à Manchester. Donc c'est... Non, voilà, je l'ai fait courte, mais c'est pas la peine que ce soit plus long.
Bon, quels sont les paysages, je pose la question aux grands voyageurs, quels sont les paysages qui gardent encore leur intégrité malgré la mondialisation?
Ah, c'est délicat comme question.
C'est vrai.
Ah ouais. Ouais, parce que toutes les banlieues se ressemblent, hein, les grandes villes, ma foi, c'est pas là qu'il faut aller chercher quelque
chose. Par
exemple,
vous avez parlé de Dakar, la banlieue de Dakar, bon, elle ressemble aux banlieues de toutes les grandes villes du monde.
Bah, y a toutes les grandes enseignes qui sont là.
Hein. Ouais.
Donc, avec exactement le même style de bâtiment et le même style de pub, très agressive, qui font qu'on voit même plus les étoiles. Il y a des endroits magiques comme les chutes d'Iguaçu qui sont au nord du Brésil, au sud du Brésil, au nord de l'Argentine. Il y a trois frontières sur le Paraná. Il y a l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Et là, ces chutes, apparemment, elles ont été protégées. Donc, il n'y a pas de bâtiments pourris tout autour. Ça reste la vraie nature avec la puissance du fleuve, hein, énorme. Alors voilà, ça reste. Il y a des endroits où je vais, moi... Et j'ose même pas le dire, parce qu'autrement, il va y avoir des tours opérateurs qui vont emmerder les Indiens que je connais.
Mais il y a encore quelques paradis préservés.
Je crois pas, non.
Même plus.
Est-ce que c'était des paradis? D'ailleurs, c'est une question. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, l'image du paradis est quand même complètement abstraite.
Hein. On est d'accord.
Voilà.
Le Graal. Alors, votre voilier, qui, je crois, s'appelait Corto Maltese.
Ouais,
vous l'avez
premier.
Toujours?
Non, je l'ai vendu il y a longtemps.
Non.
Quand on ne vit pas aux côtés de son voilier, vaut mieux le vendre, hein, parce que je ne vivais plus
ça
à Saint-Malo.
Ça s'abîme vite, hein, un bateau.
D'abord, quand ça navigue
quand
pas,
ça
c'est
reste
pire que tout.
Mais oui.
Alors là, c'est affreux, c'est presque un crime, hein, de laisser un voilier à la mare.
Voilà.
Donc, c'était à Saint-Malo, il était dans la Rance. Quand je n'ai plus vécu à Saint-Malo, je m'en suis débarrassé. Maintenant, quand je vais faire de la voile, je loue. C'est plus simple.
Mais Bernard Lavillier, ce n'est pas parce qu'on a une âme d'aventurier qu'on est forcément un marin. Étiez-vous un marin?
D'eau douce. Enfin, j'étais pas un marin au titre des marins que je connais, non. Mais j'aimais bien ça, j'aime ça. Moi.
Comme Renaud, alors?
Ouais, peut-être, je sais pas comment il navigue, mais bon, j'avais appris à
comment
naviguer.
Comment il naviguait? Oui.
Ouais, mais c'est normal, je vais dire quelque chose. Mais j'ai navigué en mer de Chine, moi, quand j'étais au Vietnam, j'ai loué un bateau.
Vous savez que c'est dangereux, hein, vous auriez failli ne jamais.
On était au milieu des pirates qui étaient juste en face, d'ailleurs, c'est vrai. On est passé à travers. Mais non, on va pas se comparer à des cadors comme Carsozon, c'est ridicule. Mais j'aime bien naviguer, oui, je suis encore navigué.
Mais sans aller jusqu'à ce genre de comparaison, encore faut-il être capable de traverser un océan, je sais pas, par exemple l'Atlantique, par les Alizés, ça s'improvise pas.
Ouais, attendez, si on parle aux marins, d'aller de Saint-Malo à l'Irlande.
Oui, déjà c'est sérieux.
Avec le Channel et quelques écueils au milieu.
Oui, oui.
La mer bretonne, hein. Quand on sait naviguer en Bretagne,
on sait naviguer partout.
Je crois, oui.
Lorsque, dans longtemps, très longtemps, sera venu le temps de se poser, vous imaginez le faire où, Bernard Lavillier ?
Oh, ici, en France.
C'est vrai ?
Bah, des fois, j'ai des tentations. Une fois que je suis parti, je regarde même le prix des apparts, quoi. Je suis comme ça, moi. Je
me dis, tiens, mais si non, vous ne pourriez pas vivre dans un appartement.
Non, mais je me dis, tiens, non. J'essaye de rassembler mes carnets. J'essaye de trouver un endroit où j'ai déjà des amis depuis longtemps. Donc, je ne crois pas que je m'installerai totalement ailleurs. Je ne vais pas revenir sur mes pas. Donc, finalement, quand j'aurai posé mes valises, ça ne veut pas dire que je ne voyagerai plus, d'ailleurs. Mais il faut quand même un endroit, si on veut. J'écrirai des chansons tant que je serai capable de chanter sur scène avec la belle voix, et physiquement.
Et Dieu sait si vous l'avez, la belle voix.
J'espère.
Juste avant de faire une pause, cette question que je ne peux pas ne pas vous poser. J'ai vraiment appris quelque chose qui m'a surprise. Et l'explication mérite d'être creusée. Il paraît que vous avez refusé de rejoindre la troupe des Enfoirés pour les Restos du Cœur. Et vous avez dit à Jean-Jacques Goldman, les yeux dans les yeux, Jean-Jacques, on ne défend pas une bonne cause avec de mauvaises chansons.
Oui, j'ai dit ça, oui.
Vous lui avez dit ça, mais comment a-t-il réagi ?
C'est pas lui qui faisait forcément des mauvaises chansons.
Non, bien évidemment, elles sont sublimes, les siennes. Mais... parle de l'ensemble, voilà, moi, du spectacle.
Je trouvais que c'était un tout petit peu... Enfin, je ne suis pas le seul à penser ça, parce que même ceux qui l'ont fait parfois, ils ont trouvé que c'était un peu... C'est un peu trivial, quelque part. Il y avait une sorte de fiesta. Alors, pourquoi pas ? Mais c'est toujours pareil. Je veux dire... je vais vous dire autre chose. On fait la charité parce qu'on est incapable d'imposer la justice. Hein. Ça, c'est ma façon de raisonner. Donc, effectivement... Les Restos du Cœur, d'ailleurs, moi je connaissais très bien Michel Colucci, hein, dit Coluche, c'était pas prévu pour durer aussi longtemps. Donc normalement, ça devait donner un coup de main à un moment donné. Ça s'est pas arrangé depuis. Et puis finalement, l'État s'était très bien habitué à ces Restos du Cœur, hein, comme d'habitude. Les pansements sur les cancers, ouais, d'accord.
Allez, on écoute un extrait de votre dernier album, Le Cœur du Monde.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, allant viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. qu'après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne, des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
C'était Le Cœur du Monde, extrait de votre dernier album, Bernard Lavilliers. Vous savez quoi ? On se retrouve tout de suite après la pub.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Le nouvel album, une merveille, a pour titre Sous un soleil énorme. Je reçois Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers, à 19 ans, dans le monde d'avant, vous êtes parti seul à l'aventure découvrir le Brésil. Que feriez-vous si vous aviez 19 ans en 2021 et soif de choses fortes, très fortes.
Alors, c'est beaucoup moins mystérieux qu'avant. Hein. Mais bon, il faut se mettre dans l'esprit de quelqu'un qui a 19 ans. Et moi, je pars avec plaisir, avec jubilation.
Ouais.
Bon, il y en a certains qui me disaient l'année prochaine, et puis ils ne perdent jamais. Ils sont toujours accoudés dans un bar. Alors, je ne sais pas. Je pense que je partirai quand même. C'est une façon de s'oublier quelque part. C'est une façon de mettre les pendules à l'heure. Et c'est jubilatoire pour moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change, c'est que j'ai l'habitude du voyage. Hein. Donc j'ai la pratique, disons, j'ai une sorte de pratique de ça. Je sais humer. Quand je dis « mais cette odeur m'est familière », c'est que, de toute façon, ça ne va pas m'inquiéter, au contraire.
Alors, l'âge, les années, pose la question de l'équilibre entre l'expérience et la culture qu'on a amassée et ce qu'on a encore à apprendre de la vie. On apprend encore, on apprend toujours, à votre âge, à 75 ans, on apprend encore vraiment.
Ah oui. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Même sur des petites choses ordinaires. Voilà, on apprend.
Sur
alors,
quoi,
évidemment,
par exemple
je creuse. Non, mais ne serait-ce que la pratique de la musique aujourd'hui. Eh ben ouais. Et oui, parce que quand j'ai travaillé avec les deux frères, là, à Terre Noire, on a fait ça dans un petit studio. Et
la chanson en hommage à Saint-Étienne.
Voilà, au fur et à mesure. Qu'ils amenaient des trucs, ils les mixaient, c'est-à-dire que dans le casque, j'avais de plus en plus l'approche du mix définitif, et hop, il n'y avait même pas besoin de mixer, pratiquement. Donc c'est très intéressant, parce que comme quand on répète avec des musiciens live, au bout d'un moment, on est d'accord, et on change souvent les arrangements des chansons de disque,
ouais.
Parce que c'est pas la même chose la scène. Hein.
Ouais, ouais.
Si vous avez 20 cordes, bon, vous débrouillez autrement. On va pas mettre des synthétiseurs à la place. Donc la chanson évolue jusqu'au moment où elle est sensible, c'est-à-dire qu'elle vous touche. Donc, et ses deux frères, un des deux qui est devant ses claviers, et il approche du mix. À chaque fois qu'on fait un tour, qu'on avance un peu, on est déjà plus près du résultat.
C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'étapes entre ce que projette spontanément l'imaginaire et ce que va entendre l'auditeur.
Dans ce cas-là.
Dans ce cas-là. Parlons de la scène. Est-ce qu'on monte sur scène à 75 ans pour les mêmes raisons qui nous poussaient sur scène à 30 ans ?
Hein, pour le frisson, oui, bien sûr. Aussi pour voir si ça passe, pour voir si on est encore en forme physique, parce que j'ai quand même été très physique, moi, sur scène. Hein. Donc là, comment on va faire ? On ne peut pas le faire comme à 30 ans, bien sûr. C'est ridicule, en plus, hein, complètement. Mmh. Donc là, pour le coup, il y a à la fois une appréhension, mais le désir d'être avec le public qui vous donne de l'énergie, énormément d'énergie. À la limite, si on a mal quelque part, sur scène, on ne sent plus. Je vous promets que c'est vrai.
Mais je vous crois. Mais votre voix, Bernard Lavilliers, elle est exactement la même que celle qu'on a découverte sur vos premiers albums au début des années 70. Alors, vous l'entretenez comment, ce miracle ?
C'est plutôt de la chance que de l'entretien.
Donc, vous n'entretenez rien du tout ? Vous
si,
vivez ?
Si, je fais gaffe. Bon,
tout de même,
je ne fume plus depuis super longtemps, déjà.
Ouais.
et je fais du sport tous les jours. Alors après, est-ce que je fais des vocalises? Je suis obligé d'en faire pour certaines chansons qui vont très haut et descendent très bas. Donc c'est comme ça que j'entretiens ma voix. Mais je pense que naturellement, génétiquement, j'ai ça. Donc c'est effectivement un avantage d'avoir une voix qui s'améliore, au contraire, au lieu de se dégrader. Pour une fois, c'est pas mal.
J'ai appris que vous étiez capable, comme ça, d'inventer une tournée l'été, quand vous êtes en vacances, paraît-il, ce que vous détestez, vous ne supportez pas les vacances. C'est vous êtes capable d'imaginer une tournée, vous appelez, par exemple, votre percussionniste, et tout à coup, vous prenez 15, 20 dates, parce que vous redoutez l'ennui, et rien ne vous agace plus, ne vous irrite plus que de rester sur une plage à regarder scintiller la Grande Bleue. Mais... en fait, c'est toujours un voyage inattendu, la scène. Vous êtes plus qu'un chanteur. Qu'est-ce que vous nous proposez, par exemple, à l'Olympia, que vous avez fait si souvent? Vous réfléchissez déjà?
Oui, j'y pense, mais là, je ne sais pas encore. Oui. J'y pense. Vous savez ce qui est le plus important? À mon avis, c'est comment on arrive sur scène, avec quelle chanson? Comment on étonne? Évidemment, ils m'ont peut-être vu 20 fois, je ne sais pas.
Ils ont vos albums.
Oui, mais comment on se renouvelle au niveau de l'arrivée et de la sortie? C'est-à-dire... faut pas une chanson de trop non plus. C'est une aventure, hein, parce qu'on va passer par plein de pays avec moi, évidemment, et plein de musiques différentes. Et je finissais une époque par une chanson qui s'appelle Attention Fragile, et je disparaissais, comme ça. Et ça laissait les gens... La dernière fois, c'était avec l'espoir. La toute dernière chanson que j'avais écrite, jouais tout seul à la guitare. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais, parce que c'est toujours l'espoir, c'est pas trop mon truc non plus. Donc, et je finissais avec ça dans l'intimité. Il y a quelque chose d'important, je pense, c'est que je fais des salles assez grandes parfois, mais à Paris, je fais toujours l'Olympia, parce qu'il y a une certaine intimité.
C'est un temple.
C'est ça, mais bon, plus l'Olympia, hein, c'est quand même énorme hein, comme endroit. Mais il y a une sorte de courant qui passe tout de suite. Il y a des salles. J'ai l'habitude évidemment de cette salle, mais d'autre part, celui qui est au fond, il n'est pas frustré, il ne me voit pas à 200 mètres, hein. Il n'y a pas besoin d'écran. Donc on est à taille humaine.
Bernard Lavillier, vous avez dit non à tous les éditeurs qui vous ont proposé d'écrire votre biographie. Parce que, en fait, votre bio, elle est dans vos chansons, c'est ça?
Un peu, puis il n'est pas fini, déjà.
Déjà, mais... il y en a qui écrivent bien leur biographie à 35-40 ans.
D'accord.
Bon.
Elle n'est pas finie. Et puis, justement, quand j'arrêterai de chanter, je ne veux pas rester sans rien foutre. Donc, c'est à ce moment-là. Je leur dirai, au fait, ça vous intéresse toujours ou ça vous intéresse pour l'instant qu'on me voit à la télé ou à la radio ou qu'on m'entend?
Je trouve que vous avez assez rarement, je ne dis pas rarement, mais plutôt rarement, chanté l'amour. Est-ce que pourtant, ça aura été la grande affaire de votre vie?
Ah oui? Ah, mais je chante ça d'une façon particulière. Même dans le dernier album, hein, il y a des chansons d'amour. Ce n'est pas uniquement des chansons d'amour.
Voilà.
Il se trouve que l'amour est présent, très présent. Mais, c'est pas une façon de parler de l'amour qui va tellement avec l'aventure, tellement avec la vie, que j'ai du mal à faire séquence amour. Vous voyez? L'amour, c'est dans la vie, c'est dans le projet.
D'ailleurs, votre épouse vous accompagne en voyage.
Bien
elle
sûr.
Était à Buenos Aires, elle participe à l'aventure depuis maintenant une vingtaine d'années.
25 ans. Hein.
25 ans.
C'est pas mal déjà, 25 ans, avec un mec pareil. Faut être costaud.
Avec le temps, on devient plus facile ou plus difficile à vivre, Bernard Lavillier?
Nous, on est deux associés maintenant, il y a un truc, on se comprend sans se parler, c'est pas la peine, ça va vite, hein. Et on rit beaucoup tous les deux, on a le même sens de l'humour, un genre de truc, pince sans rire comme ça. Et elle est graphiste, c'est elle qui fait l'artwork de tout. Et puis, c'est une artiste, donc c'est très intéressant parce qu'on compare nos lectures, les films qu'on aime, on va avoir des expos, on peut comparer nos goûts par rapport à l'art plastique, par exemple, puisqu'elle fait des sculptures.
Ouais.
Donc, il y a quand même une aventure parallèle qui se rejoint de temps en temps, parce qu'elle vient avec moi quand je suis sur scène, des fois. Parce que c'était très important qu'elle soit maquilleuse, habilleuse, par exemple, qu'elle lâche son truc que je suis en tournée, 2-3 jours par semaine. Parce qu'il faut qu'elle sache ce qu'on vit, nous, sur la route.
Mmh.
Que quand on reste, même pour les musiciens, raconter ce que nous, on vit tous les jours avec la scène... Si on ne le vit pas, si on ne peut pas le vivre en tant que spectatrice, la femme du chanteur, il n'y a rien de pire, hein, j'imagine. Elle est comme les techniciens. Il l'appelle la baronne. Mais elle travaille. Comme...
Je salue la baronne.
Bien sûr.
En fait, Bernard Lavilliers, vous avez vécu de façon à n'avoir jamais aucun regret.
Ah, certainement pas, non, j'ai pas de regrets. Peut-être des remords, mais des regrets, non.
Peut-être des remords.
Oui, ben, des fois, il se trouve qu'on peut être assez radical par moment, irréfléchi sans doute. Moi, je ne suis pas tellement le genre de mec à faire le mec pressé. Je peux m'arrêter pour écouter quelqu'un, évidemment. Mais des remords, c'est pas... Oui, si. C'est-à-dire que parfois, j'aurais pu faire autrement, sans doute, sans faire de dégâts. J'étais extrêmement turbulent à une époque. Donc, dans ma vie personnelle, j'ai pu faire des dégâts, sans doute. Mais après, pendant que je conduis la nuit, moi, j'y pense pas. Hein. Je pense à demain, hein, en général.
C'est comme ça qu'avancent les pirates. Sous un soleil énorme est le nouvel album de Bernard Lavilliers. Merci infiniment d'être passé par cette émission, devant ce micro, et de nous avoir embarqués ainsi.
Oh mais Isabelle, c'est pas la première fois, mais ce sera, j'espère, pas la dernière.
Ça, c'est certain.
Parce que on peut aborder plein de choses avec vous, justement.
Donc, on a encore mille choses à se dire.
C'est
possible.
On
se dit à très bientôt.
Oui, tout à fait. D'accord, ça marche.